Il n'y a, je commence en témoignant qu'il n'y a pas moyen pour le professeur du secondaire que je suis d'échapper au chevalier de la barre qui est la tarte à la crème emblématique du cours de quatrième sur les Lumières. Alors j'ai essayé d'y échapper cette année, comme tous les ans, mais un collègue zélé l'a remis dans le devoir sur table collectif des quatrièmes. Avec donc un extrait de Voltaire, de l'article de Voltaire dans l'encyclopédie consacré à la torture. Alors je vais vous le lire. J'avais promis à ma femme ici présente de ne pas dévoiler les détails des supplices, mais c'est Voltaire qui en parle, c'est pas moi. Lorsque le chevalier de la barre, petit-fils d'un lieutenant général des armées, jeune homme de beaucoup d'esprit et d'une grande espérance, mais ayant toute l'étourderie d'une jeunesse effrénée, fut convaincu d'avoir chanté des chansons impies et même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau, les juges d'Abbeville, gens comparables aux sénateurs romains, ordonnèrent non seulement qu'on lui arrachât la langue, qu'on lui coupât la main et qu'on brûlât son corps à petit feu, mais ils l'appliquèrent encore à la torture. Alors la torture, je précise, on lui a appliqué les brodequins, donc est un moyen, c'est des espèces de... un étau de bois qu'on sert jusqu'à broyer les jambes. Mais ils l'appliquèrent encore à la torture pour savoir précisément combien de chansons il avait chantées et combien de processions il avait vu passer le chapeau sur la tête. Ce n'est pas dans le XIIIe ou dans le XIVe siècle que cette aventure est arrivée, c'est dans le XVIIIe. Les nations étrangères jugent de la France par les spectacles, par les romans, par les jolis vers, par les filles d'opéra qui ont les mœurs fort douces, par nos danseurs d'opéra qui ont de la grâce, par Mademoiselle Clairon qui déclame des vers à ravir. Elles ne savent pas, donc les nations étrangères, qu'il n'y a point au fond de nation plus cruelle que la française. J'ai corrigé les copies et je vous témoigne de cette anecdote très rigolote. On a demandé donc aux élèves ce qu'ils en avaient compris et ils en ont tous, sans exception, compris que les Français sont un peuple cruel. Sont un peuple cruel. Et sont d'autant plus cruels qu'ils sont catholiques. Donc je pense effectivement, j'enseigne dans un public d'origine étrangère et majoritairement musulman, et bien je pense que ce texte de Voltaire n'a pas laissé indemne quant à leurs sentiments vis-à-vis de la France et du catholicisme. Il y a un élève qui a compris la chose suivante. On a demandé de qui est le texte, d'où sort-il et que faisait l'auteur. Il fallait dire c'est Voltaire, l'article torture de l'encyclopédie, et c'était un philosophe des Lumières. Et ce garçon a répondu que l'auteur s'appelle Torture et que sa profession était Voltaire. Bon, vous voyez qu'on ne se donne pas du mal pour rien. Hein. Voilà. Bon, donc je vous disais que le chevalier de la barre, depuis 250 ans tout rond, puisque ça fait 250 ans, ça fera 250 ans le 1er juillet que le chevalier de la barre a été supplicié. Et donc il est la victime emblématique du fanatisme catholique. Mais je suis un ancien élève de l'IUFM de Lyon, et j'y ai donc appris qu'il fallait revisiter et déconstruire les stéréotypes et les dogmes. C'est donc ce que je m'apprête à faire de manière zélée. Alors tout d'abord, quels sont les faits? L'histoire démarre en 1765, dans une petite ville de ce qui est aujourd'hui la Somme, mais à l'époque il n'y avait pas de département, donc on parlait du comté de Ponthieu, c'est la partie maritime de la Somme, et donc Abbeville, qui à l'époque a 17 000 habitants, donc c'est quand même une bourgade assez conséquente, assez prospère, grâce notamment à une fabrique de toiles de luxe qui a été créée par Colbert, et qui appartient à une famille qui s'appelle les Van Robay. Alors les Van Robay sont une famille de protestants hollandais à qui donc Colbert a donné le monopole de la fabrication de ces toiles de luxe. Et donc c'est une famille extrêmement riche, mais qui fait prospérer la cité d'Abbeville. Il y a là un petit jeune homme qui s'appelle François-Jean Lefèvre de la Barre. Il a 19 ans et il est d'une illustre famille. Un de ses ancêtres a été prévôt des marchands de Paris. Un autre a été gouverneur du Canada, un autre a été lieutenant général des armées. Et donc Lefèvre de la Barre est un cousin d'autres Lefèvre, très connus, qui sont les Lefèvre d'Ormesson, conseillers au Parlement de Paris. Et alors j'y reviendrai pour ce qui est des partis à l'époque, les Lefèvre d'Ormesson sont pro-jésuites. J'y reviendrai. Le problème pour ce petit jeune homme, c'est que son père se ruine. Bon, il se ruine, il fait de mauvaises affaires. Et donc, il est obligé de vendre le château de la Barre, qui se trouve dans l'abri. Et le père meurt peu après, et la mère, peu de temps encore après. Donc, vers 12 ans, le chevalier de la Barre est orphelin, ruiné. Et donc, il part vivre avec son frère chez une de leurs cousines, mademoiselle de Fédot, qui se trouve être abbesse d'un couvent, le couvent de Villancourt, à Abbeville. Et c'est comme ça que donc le chevalier débarque à Abbeville. Alors, on est au XVIIIe siècle, les mœurs monastiques connaissent un petit peu de relâchement. Il se trouve que cette abbesse du monastère du couvent de Villancourt a quelques aventures galantes, dont une avec un sieur Duménil de Belval, qui est procureur au tribunal local. Alors, le procureur, c'est l'accusateur. Hein. Il est donc procureur au présidial, c'est le nom du tribunal d'Abbeville. Ça va avoir des conséquences importantes. Le jeune Lefèvre de la Barre se livre à quelques provocations anti-religieuses. Bon, il s'ennuie, il n'a peut-être pas été bien éduqué. Et avec les petits jeunes de la noblesse locale, alors je vous cite quelques exemples de ce qu'il fait. Alors qu'il est enfant de cœur, il profère à haute voix des obscénités sur la Sainte Vierge pendant l'office. Il se masturbe dans un tabernacle et inonde du produit de cet acte les hosties consacrées. Il chante des chansons paillardes associant la Vierge et les saints. Mais il n'est pas tout seul à le faire. Hein, il y a toute une bande de petits nobles qui le font avec lui. Accessoirement, il a une petite bibliothèque dans son logement. Donc, il est logé au monastère, au couvent, mais hors de la clôture, bien sûr. Et donc, il a une petite bibliothèque fermée à clé dans laquelle se trouvent des ouvrages pornographiques de l'époque et un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire. Et la domestique qui est à son service l'a remarqué que régulièrement, lorsqu'il passe devant cette petite bibliothèque, il fait une génuflexion et un signe de croix, comme si c'était pour lui le véritable tabernacle. Alors, ces frasques et celles de ses petits camarades sont bien connues, mais on passe dessus jusqu'au jour où l'inacceptable se produit. On retrouve un grand calvaire qui se trouve à un carrefour, profondément lacéré. Et dans le cimetière d'Abbeville, il y a donc là aussi une croix et des excréments sont déposés, des excréments humains sont déposés au pied de la croix. Et là, le scandale est énorme. Le scandale est énorme parce que les gens, à l'époque, ont quand même une foi profonde et sincère. Alors c'est l'évêque d'Amiens, Monseigneur de la Motte, organise une cérémonie expiatoire. Mais ça ne suffit pas, la justice pénale s'empare de l'affaire, car on est en présence d'un blasphème qui n'est pas seulement à l'époque un crime religieux, mais qui est surtout un crime politique, parce qu'il met en cause l'autorité du roi. Le roi est un représentant de Dieu dans le royaume, son personnage est sacré, et qui blasphème la religion catholique porte atteinte publiquement à l'autorité du roi. Alors le blasphème est donc un crime reconnu par la loi. Il n'est plus depuis Saint-Antoine, donc depuis 1666, passible de la peine de mort. Et il y a un véritable mystère que les historiens se posent encore aujourd'hui, la question: pourquoi a-t-on condamné le chevalier de la Barre à mort alors que le blasphème n'était plus passible de la peine de mort depuis 100 ans ? Pour essayer de savoir qui a lacéré le calvaire et déféqué au pied de la croix du cimetière, on fait une enquête. Et les enquêteurs... l'enquêteur, c'est un certain Duval de Soicourt, qui est à la fois maire d'Abbeville et officier de police. Et il fait appel à témoins. Et on interroge tout un tas de gens, des domestiques, des coiffeurs, des perruquiers, des maîtres d'armes, tout un tas de petites gens qui tous vont raconter ce que tout le monde savait plus ou moins, c'est-à-dire les différents blasphèmes proférés par le chevalier de la Barre et sa bande. Mais sur les dégradations de croix, on n'a jamais su, hein, il n'y a aucune preuve. Par contre, on estime qu'il est possible que ce soit le chevalier de la Barre et ses copains. On dit que, on croit qu'il est possible que, on a entendu qu'il y a des ragots, et on va dire un faisceau de présomption comme quoi ça ne peut être que lui et ses copains. Tout cela est rendu d'autant plus plausible par le fait qu'effectivement, un jour, alors que passait le Saint-Sacrement, ils ne se sont pas découverts. Ça, c'est avéré. Donc Duval de Soicourt fait son enquête. Il tombe sur la petite armoire du chevalier. Dedans, il n'y trouve que le dictionnaire philosophique de Voltaire, parce que l'abbesse a fait disparaître les ouvrages pornographiques. Alors j'imagine effectivement l'abbesse partant avec des livres porno sous le bras. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Mais bref, donc on savait par la domestique qu'ils étaient là, mais ils n'y étaient plus quand l'enquêteur du Val de Soicourt est arrivé. Et donc, il a par contre trouvé le dictionnaire philosophique de Voltaire, et c'est la circonstance aggravante. C'est véritablement pour avoir possédé ce dictionnaire philosophique que le chevalier sera présumé de manière irréfragable, coupable du blasphème, donc d'avoir porté atteinte au calvaire. L'enquête conclut donc à la culpabilité du chevalier, mais aussi de plusieurs autres, dont alors le fils de l'ancien maire, hein, puisque... Pardon. Duval de Soicourt est le nouveau maire, mais il y avait un ancien maire qui s'appelle Douville de Maillefeu, et son fils est un complice du chevalier. Et puis au tribunal, il y a un procureur qui s'appelle donc Duméniel de Belval, qui était l'amoureux de l'abbesse, et lui aussi, son fils est impliqué. Et puis il y a un troisième larron qui s'appelle Gaillard des Talondes. Alors lui, il a la bonne idée de s'enfuir à l'étranger pour aller s'engager dans l'armée prussienne. Bon. Donc il y a un certain nombre de suspects qui tous sont des jeunes aristocrates d'Abbeville. Le tribunal choisit de ne condamner que le chevalier de la Barre et Gaillard des Talondes par contumace. Les autres sont tous relaxés. On peut noter que bizarrement, on ne condamne que celui qui n'a plus de famille pour le soutenir. Le fils de l'ancien maire et le fils du procureur, eux, sont jugés innocents. Enfin, innocents, en tout cas, ils sont relaxés. Donc, le tribunal condamne le chevalier de la Barre pour sacrilège exécrable et abominable, blasphème et impiété. Le chevalier fait appel. Alors, à l'époque, la cour d'appel, c'est le Parlement de Paris. Et le Parlement de Paris confirme la sentence, malgré les appels à la clémence de l'évêque d'Amiens, Monseigneur de la Motte, qui écrit au Parlement de Paris « Je vous supplie, monsieur, dit-il au président du Parlement de Paris, de suspendre autant qu'il se pourra l'exécution de la sentence d'Abbeville contre l'accusé d'impiété. Nous travaillons à obtenir du roi que la peine de mort soit transformée en prison. » Donc on voit que l'évêque demande la commutation de la peine en prison, et le clergé de France s'associe à cette demande. Le Parlement donc confirme l'appel, le roi refuse de donner sa grâce, et donc le chevalier est mis à mort le 1er juillet 1766. Alors on ne comprend toujours pas pourquoi cette condamnation, alors que la peine de mort, enfin que le blasphème n'était plus depuis 100 ans passible de la peine de mort. Alors j'ai une première explication. Qui est lié au microcosme d'Abbeville, qui était un véritable cloche-merle et un épouvantable panier de crabes, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y avait à Abbeville une opposition d'ordre. Vous savez que donc, sous l'Ancien Régime, la société comprenait trois ordres, le tiers-état, la noblesse, le clergé, et que la chose était vécue de plus en plus mal. Or, à Abbeville, la situation était la même. Et Duval de Soicourt, malgré son nom à particules, donc Duval de Soicourt, le maire et l'enquêteur, n'était qu'un bourgeois qui était proche des milieux d'affaires, et notamment qui était proche de la famille Van Robel, les propriétaires de la fabrique de tissus de luxe. Et Duval de Soicourt ne pouvait pas piffrer les nobles d'Abbeville, qui étaient donc constitués par les familles des accusés. Il ne pouvait pas sentir son prédécesseur, Douville de Maillefeu, il ne pouvait pas sentir le procureur, il ne pouvait pas sentir le chevalier de la Barre. Bon. Donc il y avait des considérations sociales. Également des oppositions économiques. Parce que donc les nobles étaient généralement hostiles à la famille Van Robais, qui, elle, richissime, représentait donc ces nouveaux milieux d'affaires bourgeois qui attendaient le pouvoir. Les nobles étaient plutôt liés aux anciennes corporations, aux petits métiers traditionnels, qui eux aussi en voulaient aux Van Robais, parce que les Van Robais payaient très bien leurs ouvriers, étaient donc accusés de faire monter les prix, de faire monter les salaires, pardon. Voilà, donc il y avait des dissensions économiques. Également des affaires sentimentales, puisque, comme je vous le disais, le procureur Douville de Maillefeu avait été amoureux de l'abbesse de Feydeau avant d'être éconduit. Ayant été éconduit par l'abbesse, il la faisait chanter sur je ne sais pas quelle affaire. Et le chevalier de la Barre était intervenu pour aider sa cousine. Et donc le procureur avait une dent toute particulière contre le chevalier. Certainement aussi une dent d'autant plus particulière que, comme son fils était co-accusé, il avait envie de charger de la Barre pour exonérer son propre fils. Donc les notables d'Abbeville se détestent tous pour différentes raisons, mais quelque part ils ont tous une bonne raison d'en vouloir au chevalier. L'enquêteur en veut au chevalier parce que le chevalier est noble, le procureur en veut au chevalier parce que le chevalier a soutenu sa cousine, etc. Donc il est le point de convergence, le malheureux chevalier de la Barre, de toutes les rancœurs de la bonne société abbevillaise. On peut y ajouter également des oppositions philosophiques, puisque ce qu'on appelle à l'époque la secte des philosophes dispose d'un illustre représentant à Abbeville, en la personne d'un certain Simon-Nicolas Linguet, qui est à la fois ingénieur, qui fait des travaux sur les canaux, il est philosophe, il est avocat, il est ami de l'ancien maire d'Ouville, il est ennemi de Duval de Soicourt, et il entreprend de prendre la défense du chevalier de la Barre. Alors comme à l'époque tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les philosophes c'est le mal absolu, le fait qu'un philosophe prenne la défense du chevalier de la Barre constitue en quelque sorte une circonstance aggravante. Donc voilà pour ce qui est du microcosme d'Abbeville. Maintenant, le chevalier a été jugé en première instance à Abbeville, mais en appel par le Parlement de Paris. Et là, les choses se compliquent, parce que le Parlement de Paris a une importance extrêmement forte à cette époque, et il est une sorte de caisse de résonance des enjeux de l'époque sur les rapports entre politique et religion. Et là, je vais essayer de manière claire, pour vous comme pour moi, parce que c'est en définitive très compliqué, de vous montrer quels sont à l'époque, donc en cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, les différents partis qui existent en France quant à la question des relations entre pouvoir politique et autorité religieuse. Positions qui ont donc des répercussions à l'intérieur du Parlement de Paris qui juge en appel le chevalier. Donc je vous rappelle que la France est une monarchie absolue de droit divin, dont le roi est Louis XV en fin de règne, et que, en vertu des principes du gallicanisme, le roi de France est le véritable chef de l'Église gallicane. Hein. Alors il faut d'abord que je vous fasse une autre précision. Quand on dit qu'il est monarque absolu de droit divin, je rappelle, et j'explique ça dans mon livre « Une autre histoire de la laïcité », que la monarchie absolue de droit divin, contrairement à ce qu'on nous raconte, n'est pas une invention de l'Église pour contrôler la monarchie, mais au contraire une invention de la monarchie pour échapper à la tutelle de l'Église sur la question religieuse. Le roi tient son pouvoir politique de son investiture politique, mais il tient son autorité de son sacre, bien, donc de l'Église. L'idée qu'il puisse y avoir une monarchie absolue de droit divin ne vient pas de France mais d'Angleterre, de l'Angleterre gallicane, où pour bien montrer que le roi d'Angleterre ne devait plus rien à l'Église catholique, le roi Jacques Ier, vers 1600, s'est affirmé monarque absolu de droit divin en disant « Je ne tiens pas mon autorité de l'Église, je la tiens directement de Dieu ». L'idée a été jugée très bonne par Richelieu, qui a essayé de l'introduire en France, et donc elle a été reprise avec le succès qu'on connaît par Louis XIV. Donc le monarque absolu de droit divin, c'est un roi qui tient son autorité de Dieu directement et non pas de l'Église. Bon. Alors les Anglais ont leur Église anglicane qui est schismatique, les Français ont une Église gallicane qui certes n'est pas schismatique, mais qui en vertu du Concordat de Bologne en 1516, complété par la déclaration des quatre articles de 1682, donne beaucoup de pouvoir au roi, qui a donc le pouvoir notamment de nommer les archevêques, les évêques, les abbés, les prieurs, etc. Donc le roi de France a un rôle extrêmement important dans la gestion de l'Église nationale. Le problème, c'est qu'on a en Louis XV un roi qui est absolument indigne de cette autorité. Il a des maîtresses, c'est un joyeux partouzeur. J'entendais récemment une émission culturelle sur l'addiction du roi Louis XV à ce genre de pratiques, et ça tout le monde le savait. Donc de lui-même, il renonce à guérir les écrouelles. Vous connaissez ce principe que les rois de France, depuis Clovis, avait le pouvoir de guérir cette forme de maladie pulmonaire par cette formule « le roi te touche, Dieu te guérit ». Cette pratique a été conservée jusqu'à Louis XIV inclus, mais Louis XV, le premier, renonce à la guérison des écrouelles en s'en estimant indigne. Il a également des problèmes majeurs avec son confesseur, qui à certains moments lui refuse la confession tant que Louis XV n'a pas fait aveu public de ses fautes. Alors Louis XV s'y est livré un jour. Son confesseur l'a confessé, mais Louis XV en a été tellement mortifié qu'il a exilé son confesseur. Donc il a quand même des tensions assez fortes. Et donc il veut, en cette fin de règne, un petit peu donner des gages à l'Église. Hein. Il veut donner des gages à l'Église, d'autant plus qu'il vient de renvoyer, 2 ans plus tôt, les jésuites du royaume, en 1764. Et j'y reviendrai, mais les jésuites sont considérés un peu partout, pas seulement en France d'ailleurs, comme des agents de l'étranger, des agents de l'Église. Bon, donc ça c'est le premier parti, le roi et l'Église gallicane. Il y a un deuxième parti très important et très complexe qui s'appelle les jansénistes. Alors, les jansénistes, on va pas trop les voir intervenir dans l'affaire du chevalier de la Barre, mais moi je les devine un petit peu en filigrane. J'ai le sentiment que le Parlement de Paris s'est donné beaucoup de mal contre le chevalier de la Barre pour ne pas prêter le flanc aux critiques des jansénistes. Alors, qui sont les jansénistes? Les jansénistes, pour en parler, il faut remonter à de vieilles discussions au sein de l'Église, qui sont des discussions sur la grâce, et qui remontent à Saint-Augustin. À l'époque de Saint-Augustin, donc vers l'an 400, il y avait un débat entre un moine qui s'appelait Pélage et Saint-Augustin, qui a donc écrit un livre qui s'appelle « Contre Pélage ». Pélage estimait que l'homme pouvait se sauver par lui-même. Voilà, il pouvait se sauver par lui-même. Alors que Saint-Augustin considérait que pour être sauvé, l'homme avait besoin de la grâce de Dieu. Et que c'est Dieu qui donnait librement sa grâce. Et qu'à qui Dieu ne donnait pas sa grâce, eh bien celui-là ne pouvait pas être sauvé. Donc la question n'a jamais été totalement éteinte. Et elle reprend énormément de vigueur au début du XVIIe siècle, où il y a énormément de débats sur la grâce, et notamment avec les jésuites, qui eux ont une conception assez, on ne va pas dire laxiste, je ne vais pas utiliser des mots trop simplistes, mais enfin, c'est un peu comme ça que c'est perçu. Les jésuites considéraient que tout homme, finalement, pouvait être sauvé. Face à eux vont se dresser des gens, et notamment un évêque flamand qui s'appelait Jansénus, évêque d'Ypres, qui va soutenir la thèse inverse, qui ressemble un petit peu aux idées protestantes, Luther et surtout Calvin. L'homme ne peut être sauvé que si Dieu lui donne sa grâce, et Dieu donne sa grâce arbitrairement. C'est la théorie de la grâce efficace. On ne peut être finalement sauvé que si on bénéficie de la chance d'une rencontre personnelle avec Dieu, c'est l'expérience de la conversion, et c'est Dieu qui choisit si on va se convertir ou si on ne va pas se convertir. Mais si on n'a pas fait cette rencontre personnelle avec Dieu, on perd son temps. On ne sera pas sauvé. On peut faire tous les actes qu'on veut, on peut aller communier, on peut aller se confesser, on ne sera pas sauvé. Ça, c'est l'idée des jansénistes. Je schématise, mais c'est en tout cas ce que j'en ai compris. Les jésuites, eux, alors ça c'est la théorie de ce qu'on appelle la grâce efficace. Les jésuites, eux, développent ce qu'on appelle la théorie de la grâce suffisante, qui consiste à dire qu'on ait rencontré Dieu ou qu'on n'ait pas rencontré Dieu, qu'on soit converti ou qu'on ne soit pas converti au fond de son cœur, la simple idée qu'on veuille se convertir, qu'on pratique, qu'on ait accès au sacrement, est suffisante pour nous sauver. C'est donc la théorie de la grâce suffisante. Donc se développe ce courant janséniste extrêmement rigoriste, donc, qui est officiellement condamné par le pape en 1653 par la bulle Cum Occasione. Alors, pour des raisons complexes, le janséniste, qui est au départ un courant religieux, va prendre, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une tonalité politique. En effet, le janséniste va être condamné par les rois de France. Ça commence dès les années 1630, on va dire, parce que, alors, vous avez tous entendu parler de la guerre de 30 ans, la guerre de 30 ans qui, au sein de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, oppose les principautés devenues protestantes aux principautés restées catholiques. Et à l'époque, la France catholique devrait normalement soutenir les Habsbourg catholiques contre leurs princes protestants. Et c'est ce que veut toute une tendance qu'on appelle le Parti des dévots, tendance catholique, donc qui comprend les jansénistes et puis d'autres. Donc il y a le Parti des dévots. Et Richelieu, lui, choisit, lors de ce qu'on appelle la fameuse journée des dupes, de ne pas envoyer l'armée française défendre les Habsbourg catholiques, mais d'envoyer l'armée française soutenir les princes protestants, parce qu'il estime, pour des raisons politiques, qu'il est plus important d'affaiblir les Habsbourg. Donc, on va avoir, dès cette époque-là, un courant religieux, le Parti des dévots, qui va devenir un courant politique en s'opposant à la politique du roi. Bon, on va retrouver ça ensuite pendant la Fronde, qui est la révolte de la noblesse contre l'absolutisme royal. Beaucoup de princes, de seigneurs frondeurs vont être des jansénistes. Et Louis XIV, à peine arrivé au pouvoir, va persécuter sévèrement les jansénistes en fermant Port-Royal. Il accuse les jansénistes d'être, je cite, une secte républicaine. Et il demande au pape de condamner une deuxième fois, très fermement, les jansénistes, qui sera fait par la bulle Unigenitus en 1713. Bon. Le problème, c'est que pour être ratifié en France, enfin pour être applicable en France, une bulle doit être ratifiée par le Parlement de Paris. Et que le Parlement de Paris est truffé de jansénistes. Et que donc la bulle Unigenitus a toutes les peines du monde à se faire ratifier par le Parlement. Donc on voit bien comment, à cette époque, l'atmosphère politique est en France pourrie par le jansénisme. Et l'abbé Seyès pourra dire, quelques décennies plus tard, que la Révolution française a été la revanche de Port-Royal, parce que les jansénistes vont se précipiter, tête baissée ensuite, dans ceux qui seront les premiers révolutionnaires. Bon. Donc un deuxième courant, après le roi et l'Église gallicane, les jansénistes. Troisième courant, les philosophes. Alors les philosophes, on peut les classer dans deux catégories. Il y a tout d'abord donc les philosophes des Lumières athées, avec des gens comme Diderot, par exemple, pour qui le rôle de la philosophie est d'extirper de l'esprit de l'homme toute idée de religion. Et puis il y a les philosophes déistes, comme Voltaire et Rousseau, pour qui il existe un Dieu. La raison nous montre que forcément, comme le monde tourne rond, l'univers, tout ça, ça a dû être fait par un Dieu bienveillant, un grand architecte, un être suprême. Mais le rôle de la philosophie et des philosophes est de lutter contre ce qu'ils appellent les religions positives. Il faut lutter contre le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme, etc. Et il faut rechercher donc cette religion, une religion maçonnique, hein, rationnelle, Dieu pour eux ne pouvant pas s'être révélé. Donc la connaissance, on ne se convertit pas à Dieu, on essaye de le connaître par la raison. Bon. Il y a des passerelles entre les philosophes athées et les philosophes déistes, ils sont copains entre eux. Et d'ailleurs, je vais arriver dans un instant à la défense du chevalier de la Barre par Voltaire, mais Voltaire, philosophe déiste, lorsqu'il défend le chevalier de la Barre, est en relation avec un autre philosophe qui s'appelle Damy Laville. Ils échangent, ils ont un échange épistolaire sur ce que fait Voltaire à ce moment-là, et ce Damy Laville est un athée convaincu, Voltaire disant de lui qu'il s'est donné pour mission de haïr Dieu et de travailler à le faire haïr. Donc voilà un troisième courant à l'époque, les philosophes. Et puis il y a un quatrième courant qui est le courant jésuite. Alors les jésuites, bah, vous connaissez tous cet ordre religieux qui a un rôle très actif dans la contre-réforme et qui est l'instrument du pape, l'œil du pape. On a connu l'œil de Moscou, mais il y avait l'œil du pape dans les différentes principautés chrétiennes. Et tout le monde, finalement, les déteste. Leurs caractéristiques, enfin, en France, toutes les coteries dont j'ai parlé tout à l'heure les détestent. Les gallicans les détestent, les jansénistes les détestent, et bien sûr, les philosophes les détestent. Alors, on peut comprendre qu'ils soient un petit peu détestés par les amis de la monarchie absolue de droit divin, tout simplement parce que, outre le fait qu'ils sont l'œil du pape en France et ailleurs, ils ont développé une théorie qui est celle du tyrannicide, qui est que si un roi se comporte en mauvais chrétien, c'est le droit et le devoir de tout chrétien de tuer le roi. Et on avait quand même eu l'exemple de Henri III, assassiné par un moine, de Henri IV, assassiné par Ravaillac, qui était un ligueur fanatique, et de la tentative d'assassinat de Louis XV, quelques années plus tôt, en 1757, par Damien qui avait été employé chez les jésuites. Bon, donc les jésuites étaient très mal vus. Et d'ailleurs, donc en 1764, le Parlement de Paris et Louis XV les chassent du royaume. Donc voilà les quatre grands courants politico-religieux qui s'opposent très violemment en France à l'époque. Et le Parlement de Paris est à l'époque la caisse de résonance de ces rivalités. Le Parlement de Paris qui donc condamne en dernière instance le chevalier de la Barre. Alors, qu'est-ce que c'est que le Parlement de Paris ? Donc c'est une assemblée qui est constituée de nobles qui sont propriétaires de leurs charges et qui se la redonnent de père en fils. Il a deux rôles. Il est à la fois tribunal et il est chambre d'enregistrement des édits royaux. Donc lorsque je suis payé pour expliquer aux élèves, à l'époque, le roi avait tous les pouvoirs. Il avait à la fois le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Bon, en définitive, le roi n'avait aucun pouvoir parce que s'il faisait des lois, ce qu'on appelait des édits, pour qu'elles soient applicables, il fallait qu'elles soient enregistrées par les parlements. Alors le Parlement de Paris avait la main sur... on va dire les deux tiers du pays, mais il y avait le Parlement du Dauphiné, il y avait le Parlement d'Artois, il y avait le Parlement du Languedoc, etc. Bon, donc il y avait des parlements qui disaient oui, il y avait des parlements qui disaient non, il y avait des parlements qui disaient oui, mais il faut modifier tout ça. C'est ce qu'on appelait le droit de remontrance. Bon, donc il avait ce double rôle, le Parlement de Paris. Bon. Et bien évidemment, il mettait à l'époque un malin plaisir à mettre des bâtons dans les roues du roi. Il était une sorte d'instrument de la revanche nobiliaire sur la toute-puissance royale. Parce que, donc, comme vous le savez, la monarchie absolue s'était faite contre les pouvoirs de la noblesse. Confère Versailles, Donc les parlements, c'était un instrument de la revanche de la noblesse sur le roi. Donc le Parlement de Paris tenait en permanence la dragée haute au roi. Mais il faut savoir également qu'il était lui-même tiraillé entre des multiples tendances. Il y avait des parlementaires jansénistes, il y avait des parlementaires gallicans et il y avait des parlementaires pro-jésuites, notamment la famille Lefebvre d'Ormesson. Il n'y avait pas de parlementaires philosophes. Voilà. Le point commun entre toutes les tendances du Parlement, c'est qu'ils ne pouvaient pas sentir les philosophes. Bon. Alors, l'affaire du chevalier de la Barre arrive à un moment de paroxysme, de paroxysme de la rivalité entre le roi et le Parlement. Puisque alors, cette rivalité entre le roi et le Parlement prend de l'ampleur pour une raison que vous allez comprendre et qui vient d'Angleterre. En 1688, il y a eu en Angleterre une révolution. Il y a eu deux révolutions en Angleterre, une en 1649 et une en 1688. Et en 1688, cette révolution a retiré des pouvoirs au roi pour renforcer les pouvoirs du Parlement, notamment la Chambre des communes. Or, vous savez que la Chambre des communes est une chambre en Angleterre qui est élue par les représentants des communes. Bon. Donc, on appelle ça le Parlement en Angleterre. Et en France, il y avait le Parlement. C'est le même mot, le même nom, Parlement, Parlement. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Le Parlement anglais est élu. Le Parlement français est composé de nobles qui se transmettent leurs charges de père en fils. Bon, et qui sont les défenseurs des intérêts de la noblesse. Mais les parlementaires parisiens ont dit ben, « Nous sommes comme les parlementaires anglais. Nous sommes les représentants du peuple contre le roi. » Et donc ils se prenaient en quelque sorte pour... alors ils n'étaient pas proches des idées des philosophes, mais il y avait quand même un petit peu cette idée du contrat social. Et nous, les parlementaires, nous sommes les représentants du peuple et nous allons donc montrer au roi ce que veut le peuple. Mais ils n'étaient pas du tout le peuple, ils étaient la noblesse. Bon. Bref, alors, en 1771, donc 5 ans après l'affaire du Chevalier de la Barre, le roi Louis XV va exiler le Parlement de Paris. Donc vous voyez que l'affaire du Chevalier de la Barre arrive à une sorte de paroxysme de la crise. Le Parlement, vous disais-je, est lui-même divisé en clans. Alors on a donc les jansénistes qui sont très actifs. On a un clan gallican, qui est le clan majoritaire, qui est symbolisé, représenté par le procureur du roi, Omer Joly de Fleury, dont Voltaire, qui ne pouvait pas le supporter, disait « Il n'est ni Omer, ni Joly, ni Fleury ». Donc Omer Joly de Fleury, procureur du roi, ennemi juré des philosophes. Et on s'est aperçu en lisant ces réquisitoires que, à cette époque, dans les différents procès qu'il instruit, Omer ne plaide pas sur la cause, il plaide contre les philosophes. Bon. Il a un bras droit qui est donc son avocat général, qui s'appelle Étienne Pasquier. Et là encore, on ne connaît pas le réquisitoire, le fond du réquisitoire. Et c'est lui, donc, qui est Étienne Pasquier, qui va faire le réquisitoire. On ne connaît pas le terme du réquisitoire, mais on sait simplement par un compte-rendu d'un témoin, qui était Grimm, qu'il a surtout attaqué le parti philosophique, le parti de l'encyclopédie, et qu'il a donc surtout jugé, le Chevalier de la Barre a surtout été jugé pour être possesseur du dictionnaire philosophique. Et puis dans tout ça, il y a les pro-jésuites, et là, manque de bol, c'est la famille du Chevalier de la Barre. C'est les d'Ormesson. Alors les jésuites viennent d'être renvoyés, les pro-jésuites n'ont pas tellement voix au chapitre. Donc on se rend quand même bien compte que là au milieu, le Chevalier de la Barre, il a un petit peu, même beaucoup, payé les frais des rivalités, des oppositions de clans au sein du Parlement de Paris. Et finalement, il a été l'objet d'un règlement de compte. Donc lui, sa famille, c'était d'Ormesson, c'était les pro-jésuites. Il a été l'objet d'un règlement de compte du clan pro-gallican contre le clan pro-jésuite. On devine en filigrane les jansénistes qui, pour une fois, devaient boire du petit lait avec les gallicans contre les pro-jésuites. Voilà. Alors, donc, on pense que le Parlement, en plus, a voulu faire un exemple contre les philosophes, tout en espérant la grâce du roi. Le problème, c'est que le roi ne pouvait pas donner sa grâce, pour deux raisons. La première, c'est que s'il donnait sa grâce, il avait l'air d'être moins chrétien que le Parlement de Paris. Et que la deuxième, c'est qu'il avait déjà refusé la grâce, il avait refusé sa grâce à Damien, qui avait essayé de l'assassiner quelques années plus tôt, et qui s'est dit « j'ai refusé de gracier quelqu'un qui a porté atteinte à ma personne, moi qui suis un être humain ». Que serais-je si je graciais quelqu'un qui est accusé d'avoir porté atteinte à la personne de Dieu ? Donc vous voyez que le Chevalier de la Barre a été victime finalement de ce véritable nœud de vipère qui était les rapports entre le Parlement et le roi et les rapports au sein du Parlement. Or l'affaire a bien sûr été exploitée de la manière que vous savez, tout d'abord par Voltaire et les philosophes. Voltaire fait du Chevalier une victime du fanatisme catholique. Et cette affaire s'inscrit dans le prolongement de deux autres qui sont connues et qui ont eu lieu peu de temps avant, l'affaire Calas et l'affaire Sirvaine. Dans les deux cas, il s'agit de... Alors Calas, si j'ai bonne mémoire, c'est un couple de Toulouse, de protestants, qui est accusé d'avoir assassiné son fils parce qu'il voulait se convertir au catholicisme. L'affaire Sirvaine, j'ai un petit peu oublié, mais il est aussi question d'un couvent de religieux. Enfin bon, il s'agit à chaque fois d'affaires où l'Église catholique est impliquée. Et donc, pour Voltaire, c'est une sorte de triptyque, voilà, le Chevalier de la Barre. Donc, il le défend dans trois écrits. Tout d'abord, un récit de l'affaire qu'il a intitulé « La relation de la mort du chevalier de la Barre à M. le marquis de Beccaria », qu'il a écrit sous un pseudonyme, le pseudonyme donc de Cassène. Ensuite, il y a son article « Torture » dans le dictionnaire philosophique, que j'ai lu tout à l'heure. Non, dans l'encyclopédie, pardon. Et puis, en 1775, un ouvrage qui s'appelle « Le cri du sang innocent », qu'il a rédigé lui, mais qu'il a fait signer par Gaillard d'Étalonde, qui est le deuxième condamné, qui est à l'époque réfugié en Prusse, et qui est un appel à la clémence de Louis XVI. Alors Louis XVI va refuser de gracier d'Étalonde. Donc Voltaire se fait de la pub sur cette affaire, et là encore, en pointant du doigt, l'infâme. Hein, l'infâme, l'Église catholique. Pour Voltaire, le chevalier de la Barre est une victime de l'Église et du fanatisme catholique. Deuxième récupération par la Convention. En 1793, le 15 novembre 1793, la Convention réhabilite officiellement le chevalier de la Barre par un décret. Mais je me suis amusé à regarder les décisions qui avaient été prises la même semaine. On y trouve la destitution de l'archevêque de Paris, qui pourtant avait été élu par le peuple en tant qu'archevêque constitutionnel. On y trouve la transformation de la cathédrale Notre-Dame en temple de la raison. On y trouve la suppression du dimanche du calendrier républicain. Et la fermeture de toutes les églises de Paris. Bon, donc on voit bien dans quel état d'esprit, dans un véritable apothéose d'athéisme et d'anticatholicisme militant, s'est déroulée la réhabilitation du chevalier de la Barre. Troisième récupération par les anticléricaux et notamment les francs-maçons. Alors, on parlait tout à l'heure, avant le début de cette conférence, du Sacré-Cœur. Vous savez, donc, le Sacré-Cœur a été bâti sur la base d'un vœu qui a été fait, une sorte de vœu expiatoire, qui a été fait pour expier la Commune de Paris à l'endroit où avait été fusillé l'archevêque de Paris et le général commandant la place de Paris à l'époque. Donc les catholiques ont fait un vœu et lancé une souscription pour construire donc cette basilique expiatoire. Donc symboliquement, c'est très fort. La Troisième République, après la création, l'édification de la basilique du Sacré-Cœur, a tenu à ce que la rue qui donne sur le parvis du Sacré-Cœur soit nommée rue du Chevalier de la Barre. Elle s'appelle toujours rue du Chevalier de la Barre. Et on y avait même placé une statue qui avait été donc commandée à un sculpteur du nom de Bloch. Statue qui, alors circonstance aggravante et qui prouve combien le chevalier était une pauvre victime, c'est le régime de Vichy qui a ordonné la destruction de la statue. Donc ça prouve effectivement qu'on avait eu raison de la mettre 50 ans plus tôt. Donc on en a remis une autre depuis. Voilà. Alors, je voudrais quand même également livrer, pour faire un peu sourire, je suis tombé sur Internet sur une association, Le Chevalier de la Barre, pour la promotion de la laïcité, la liberté de conscience et d'expression. Alors je peux d'ailleurs vous parler de... Je poursuis, puis je vais vous raconter une autre anecdote. Donc elle se tient à la maison des associations du 18e arrondissement. Et la petite phrase qu'on voit en exergue est la suivante. « Que dirait Robespierre aujourd'hui des clameurs de l'intolérance et de l'obscurantisme qui retentissent dans le monde ?» C'est vrai que Robespierre n'a jamais tué personne, on le sait. Que des idéologues, sans doute durs d'oreille, qualifient benoîtement de retour du religieux. Nous qui conservons la mémoire du chevalier de la Barre, victime emblématique du fanatisme, nous disons tout net que le moment est venu d'élever la voix et de barrer la route à ce soi-disant religieux porteur de haine et de meurtre. Bon, donc on sait effectivement que les grandes idéologies athées n'ont tué personne. Alors, j'ai regardé quand même ce que le malheureux président fondateur de cette association est mort l'an dernier. Et je suis tombé sur sa nécrologie sur un site maçonnique. Je vous le dis, c'est drôle. « Nous avons la grande tristesse d'annoncer le passage à l'Orient éternel, le 3 février 2014, de notre frère Christian Boulmier. Christian était un frère d'une grande disponibilité, d'une grande générosité, attentif et discret, qui aura donné beaucoup à la franc-maçonnerie libérale et adogmatique. Il était membre de la loge Intersection. Il fut membre du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. » Grand trésorier, puis deuxième grand maître adjoint. Il fut grand maître de la loge mixte universelle. Il fut grand secrétaire de la chambre d'administration et deuxième grand inspecteur du grand chapitre général du rite français. Il était immense. Il était membre des chapitres Frédéric Desmonts, 1877, la cité laïque, les fils de Gilgamesh et Vigilance. Il était titulaire du 5e ordre. Très engagé dans le combat laïque, qu'ils écrivent avec un accent circonflexe, laïque, il fut le président fondateur de l'association du Chevalier de la Barre. Les obsèques auront lieu lundi 10 février à 10h30 au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, entrée au 71 rue des Rondeaux, 75-020 Paris, possibilité de parking à l'intérieur du cimetière, au droit du crématorium, métro Gambetta. La cérémonie maçonnique se déroulera de 10h30 à 11h30, salle haute sous le dôme. Merci de venir avec votre cordon de maître. Pendant la crémation, des agapes seront organisées, salle haute, entre 12h et 13h45. La dispersion des cendres aura lieu à 14h au jardin du souvenir. Gémissons, 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 gémissons et espérons. Voilà des obsèques pleines d'espérance. Ça fait envie. Bon, voilà. Alors, donc, plus de 70 communes ont des rues du Chevalier de la Barre. Les communistes aussi, dont on sait qu'ils ont beaucoup œuvré pour la liberté de penser, ont fait édifier un monument à Abbeville. C'est marqué dessus « Monument élevé par le prolétariat à l'émancipation totale de la pensée humaine ». On connaît le rôle des communistes dans l'émancipation totale de la pensée humaine. Alors, pour conclure, je dirais que, pour moi, à l'évidence, le Chevalier de la Barre a été victime du monde. D'abord, il a été victime de ses propres vices et de sa propre bêtise. Enfin, il avait 19 ans. Il a été victime du panier de crabes de la ville d'Abbeville, avec ses affaires de sexe, d'argent, de pouvoir. Il a été victime du panier de crabes du Parlement de Paris, avec ses luttes de factions, les Gallicans, les Jésuites, les Jansénistes, la lutte du Parlement contre le roi. Il a surtout été victime de l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Avec un roi, personnage sacré, qui se veut vrai chef de l'Église de France et qui considère le blasphème comme une atteinte à son autorité politique. Un roi débauché, qui veut donner des gages de moralité à ceux que sa conduite offusque. Un roi qui vient de renvoyer les jésuites et veut se montrer meilleur catholique qu'eux. Un roi qui n'a pas gracié Damien, 9 ans plus tôt, et qui pense qu'il ne peut faire pour celui qui s'en est pris, mieux pour celui qui s'en est pris à Dieu et non pas à un homme. Mais vous avez constaté qu'il y a eu une grande absente dans ce procès, une autorité dont je n'ai jamais parlé. Bien, c'est l'Église. Elle n'apparaît que pour défendre le chevalier, à travers l'abbesse de Feydeau, qui a tout fait pour sauver son cousin, aller détruire les livres porno, et qui l'a même caché un moment dans le monastère, et puis surtout l'évêque d'Amiens, Monseigneur de la Motte, qui a tout fait pour obtenir la grâce du chevalier, écrivant au Parlement et écrivant au roi. Donc si le Chevalier de la Barre a été, en 1766, donc il y a 250 ans, tout rond, victime d'un procès scandaleux, ben j'estime qu'il y a effectivement 250 ans que l'Église en subit un autre, tout aussi scandaleux. Sauf qu'elle attend toujours son Voltaire. Me voici.